Chapitre 12. Durant les jours qui suivirent son retour, Des Esseintes considéra ses livres, et à la pensée qu'il aurait pu se séparer d'eux pendant longtemps, il goûta une satisfaction aussi effective que celle dont il eût joui s'il les avait retrouvés après une sérieuse absence. Sous l'impulsion de ce sentiment, ces objets lui semblèrent nouveaux, car il perçut en eux des beautés oubliées depuis l'époque où il les avait acquis. Tout, volume, bibelot, meuble, prit à ses yeux un charme particulier. Son lit lui parut plus moelleux, en comparaison de la couchette qu'il aurait occupée à Londres. Le discret et silencieux service de ses domestiques l'enchanta, fatigué qu'il était par la pensée de la loquacité bruyante des garçons d'hôtel. L'organisation méthodique de sa vie lui fit l'effet d'être plus enviable, depuis que le hasard des pérégrinations devenait possible. Il se retrempa dans le bain de l'habitude, auquel d'artificiels regrets insinuaient une qualité plus roborative et plus tonique. Mais ces volumes le préoccupèrent principalement. Il les examina, les rangea à nouveau sur les rayons, vérifiant si, depuis son arrivée à Fontenay, les chaleurs et les pluies n'avaient point endommagé leur reliure et piqué leur papier rare. Il commença par remuer toute sa bibliothèque latine, puis il disposa, dans un nouvel ordre, les ouvrages spéciaux d'Archélaüs, d'Albert le Grand, de Lull, d'Arnaud de Villanova, traitant de cabale et de sciences occultes. Enfin, il compulsa un à un ses livres modernes et, joyeusement, il constata que tout s'était demeuré au sec, intact. Cette collection lui avait coûté de considérables sommes. Il n'admettait pas, en effet, que les auteurs qu'il choyait fussent dans sa bibliothèque, de même que dans celle des autres, gravés sur du papier de coton avec les souliers à clous d'un Auvergnat. À Paris, jadis, il avait fait composer pour lui seul certains volumes que des ouvriers spécialement embauchés tiraient aux presses à bras. Tantôt, il recourait à Perrin de Lyon, dont les sveltes et purs caractères convenaient aux réimpressions archaïques des vieux bouquins. Tantôt, il faisait venir d'Angleterre ou d'Amérique, pour la confection des ouvrages du présent siècle, des lettres neuves. Et tantôt encore, il s'adressait à une maison de Lille qui possédait depuis des siècles tout un jeu de corps gothiques. Tantôt enfin, il réquisitionnait l'ancienne imprimerie Eschedée de Harlem, dont la fonderie conserve les poinçons et les frappes des caractères dits de civilité. Et il avait agi de même pour ses papiers. Là, un beau jour, des Chines argentées, des Japons nacrés et dorés, des blancs Watman, des Hollandes bis, des Turquais et des Seychelles Milstein en chamois, et dégoûté aussi par les papiers fabriqués à la mécanique, il avait commandé des vergers à la forme, spéciaux, dans les vieilles manufactures de vire, où l'on se sert encore des pilons naguère usités pour broyer le chanvre. Afin d'introduire un peu de variété dans ses collections, il s'était à diverses reprises fait expédier de Londres des étoffes à prêter, des papiers à poils, des papiers reps, et pour aider à son dédain des bibliophiles, un négociant de Lübeck lui préparait un papier à chandelle perfectionné, bleuté, sonore, un peu cassant, dans la pâte duquel les fétus étaient remplacés par des paillettes d'or, semblables à celles qui pointillent l'eau de vie de Danzig. Il s'était procuré dans ces conditions des livres uniques, adoptant des formats inusités qu'il faisait revêtir par l'ortique, par Trance-Bosonnet, par Chambol, par les successeurs de Capet, d'irréprochables reliures en soie antique, en peau de bœuf estampée, en peau de bouc du Cap, des reliures pleines à compartiments et à mosaïques, doublées de tabis ou de moires, ecclésiastiquement ornées de fermoirs et de coins, parfois même émaillées par Gruelengelmann, d'argent oxydé et des mots lucides. Il s'était fait ainsi imprimer, avec les admirables lettres épiscopales de l'ancienne maison Leclerc, les œuvres de Baudelaire dans un large format rappelant celui des Micelles, sur un feutre très léger du Japon, spongieux, doux comme une moelle de sureau, et imperceptiblement teinté dans sa blancheur laiteuse d'un peu de rose. Cette édition, tirée à un exemplaire d'un noir velouté d'encre de Chine, avait été vêtue en dehors et recouverte en dedans d'une mirifique et authentique peau de truie choisie entre mille, couleur chair, toute piquetée à la place de ses poils et ornée de dentelles noires au fer froid, miraculeusement assortie par un grand artiste. Ce jour-là, Des Esseintes ôta cet incomparable livre de ses rayons et il le palpait dévotement, relisant certaines pièces qui lui semblaient dans ce simple mais inestimable cadre plus pénétrantes que de coutume. Son admiration pour cet écrivain était sans bornes. Selon lui, en littérature, on s'était jusqu'alors borné à explorer les superficies de l'âme ou à pénétrer dans ces souterrains accessibles et éclairés, relevant çà et là les gisements des péchés capitaux, étudiant leurs filons, leur croissance, notant, ainsi que Balzac par exemple, les stratifications de l'âme possédées par la monomanie d'une passion, par l'ambition, par l'avarice, par la bêtise paternelle, par l'amour sénile. C'était au demeurant l'excellente santé des vertus et des vices, le tranquille agissement des cervelles communément conformées, la réalité pratique des idées courantes, sans idéal de maladive dépravation, sans au-delà. En somme, les découvertes des analystes s'arrêtaient aux spéculations mauvaises ou bonnes, classifiées par l'Église. C'était la simple investigation ou l'ordinaire surveillance d'un botaniste qui suit de près le développement prévu de floraisons normales plantées dans de la naturelle terre. Baudelaire était allé plus loin. Il était descendu jusqu'au fond de l'inépuisable mine. S'était engagé à travers des galeries abandonnées ou inconnues, avait abouti à ces districts de l'âme où se ramifient les végétations monstrueuses de la pensée. Là, près de ces confins où séjournent les aberrations et les maladies, le tétanos mystique, la fièvre chaude de la luxure, les typhoïdes et les vomitos du crime, il avait trouvé, couvant sous la morne cloche de l'ennui, l'effrayant retour d'âge des sentiments et des idées. Il avait révélé la psychologie morbide de l'esprit qui a atteint l'octobre de ses sensations, raconté les symptômes des âmes requises par la douleur, privilégiées par le spleen, montré la carie grandissante des impressions, alors que les enthousiasmes, les croyances de la jeunesse sont taries, alors qu'il ne reste plus que l'aride souvenir des misères supportées, des intolérances subies, des froissements encourus par des intelligences qu'opprime un sort absurde. Il avait suivi toutes les phases de ce lamentable automne, regardant la créature humaine docile à s'aigrir, habile à se frauder, obligeant ses pensées à tricher entre elles pour mieux souffrir, gâtant d'avance grâce à l'analyse et à l'observation toute joie possible. Puis, dans cette sensibilité irritée de l'âme, dans cette férocité de la réflexion qui repousse la gênante ardeur des dévouements, les bienveillants outrages de la charité, il voyait peu à peu surgir l'horreur de ces passions âgées, de ces amours mûrs, où l'un se livre encore quand l'autre se tient déjà en garde, où la lassitude réclame au couple des caresses filiales dont l'apparente juvénilité paraît neuve, des candeurs maternelles dont la douceur repose et concède, pour ainsi dire, les intéressants remords d'un vague inceste. En de magnifiques pages, il avait exposé ses amours hybrides, exaspérés par l'impuissance où elles sont de se combler, ses dangereux mensonges, des stupéfiants et des toxiques appelés à l'aide pour endormir la souffrance et mater l'ennui, à une époque où la littérature attribuait presque exclusivement la douleur de vivre aux malchances d'un amour méconnu ou aux jalousies de l'adultère. Il avait négligé ses maladies infantiles et sondé ses plaies plus incurables, plus vivaces, plus profondes, qui sont creusées par la satiété, la désillusion, le mépris dans les âmes en ruine que le présent torture, que le passé répugne et que l'avenir effraie et désespère. Et plus des esseintes relisaient Baudelaire, plus il reconnaissait un indicible charme à cet écrivain qui, dans un temps où le vers ne servait plus qu'à peindre l'aspect extérieur des êtres et des choses, était parvenu à exprimer l'inexprimable grâce à une langue musculeuse et charnue qui, plus que tout autre, possédait cette merveilleuse puissance de fixer avec une étrange santé d'expression les états morbides les plus fuyants, les plus tremblés des esprits épuisés et des âmes tristes. Après Baudelaire, le nombre était assez restreint des livres français rangés sur ses rayons. Il était assurément insensible aux œuvres sur lesquelles il est d'un goût adroit de se pâmer. Le grand rire de Rabelais, le solide comique de Molière, ne réunissait pas à le dérider, et son antipathie envers ses farces allait même assez loin pour qu'il ne craignît pas de les assimiler, au point de vue de l'art, à ces parades des bobèches qui aident à la joie des foires. En fait de poésies anciennes, il ne lisait guère que Villon, dont les mélancoliques ballades le touchaient, et çà et là quelques morceaux de Daubigné qui lui fouettaient le sang avec les incroyables virulences de leurs apostrophes et de leurs anathèmes. En prose, il se souciait fort peu de Voltaire et de Rousseau, voire même de Diderot, dont les salons tant vantés lui paraissait singulièrement rempli de fadaises morales et d'aspirations jobardes. En haine de tous ces fatras, il se confinait presque exclusivement dans la lecture de l'éloquence chrétienne, dans la lecture de Bourdaloue et de Bossuet, dont les périodes sonores et parées lui imposaient. Mais de préférence encore, il savourait ses moelles condensées en de sévères et fortes phrases, tels que les façonnèrent Nicole dans ses pensées, et surtout Pascal, dont l'austère pessimisme, dont la douloureuse attrition lui allait au cœur. À part ces quelques livres, la littérature française commençait dans sa bibliothèque avec le siècle. Elle se divisait en deux groupes. L'un comprenait la littérature ordinaire, profane, l'autre, la littérature catholique, une littérature spéciale, à peu près inconnue, divulguée pourtant par de séculaires et d'immenses maisons de librairie aux quatre coins du monde. Il avait eu le courage d'errer parmi ces cryptes, et ainsi que dans l'art séculier, il avait découvert, sous un gigantesque amas d'insipidité, quelques œuvres écrites par de vrais maîtres. Le caractère distinctif de cette littérature, c'était la constante immuabilité de ses idées et de sa langue. De même que l'Église avait perpétué la forme primordiale des objets saints, de même aussi, elle avait gardé les reliques de ses dogmes et pieusement conservé la châsse qui les enfermait, la langue oratoire du grand siècle. Ainsi que le déclarait même un de ses écrivains, Ozanam, le style chrétien n'avait que faire de la langue de Rousseau. Il devait exclusivement se servir du dialecte employé par Bourdaloue et par Bossuet. En dépit de cette affirmation, l'Église, plus tolérante, fermait les yeux sur certaines expressions, sur certaines tournures empruntées à la langue laïque du même siècle, et l'idiome catholique s'était un peu dégorgé de ces phrases massives alourdi, chez Bossuet surtout, par la longueur de ses incidentes et par le pénible ralliement de ses pronoms. Mais là s'étaient bornées les concessions. et d'autres n'eussent sans doute mené à rien, car ainsi délestée, cette prose pouvait suffire au sujet restreint que l'Église se condamnait à traiter. Incapable de s'attaquer à la vie contemporaine, de rendre visible et palpable l'aspect le plus simple des êtres et des choses, inapte à expliquer les ruses compliquées d'une cervelle indifférente à l'état de grâce, cette langue excellait cependant aux sujets abstraits. Utile dans la discussion d'une controverse, dans la démonstration d'une théorie, dans l'incertitude d'un commentaire, elle avait plus que tout autre aussi l'autorité nécessaire pour affirmer, sans discussion, la valeur d'une doctrine. Malheureusement, là comme partout, une innombrable armée de cuistres avait envahi le sanctuaire et sali par son ignorance et son manque de talent sa tenue rigide et noble. Et pour comble de malchance, des dévotes s'en étaient mêlées et de maladroites sacristies et d'imprudents salons avaient exalté ainsi que des œuvres de génie les misérables bavardages de ces femmes. Des Esseintes avaient eu la curiosité de lire parmi ces œuvres celle de Madame Swetchine, cette générale russe, dont la maison fut à Paris recherchée par les plus fervents des catholiques. Elles avaient dégagé pour lui un inaltérable et un accablant ennui. Elles étaient plus que mauvaises, elles étaient quelconques. Cela donnait l'idée d'un écho retenu dans une petite chapelle où tout un monde gourmet et confit marmottait ses prières, se demandait à voix basse de ses nouvelles, se répétait d'un air mystérieux et profond quelques lieux communs sur la politique, sur les prévisions du baromètre ou sur l'état actuel de l'atmosphère. Mais il y avait pis. Une lauréate brevetée de l'Institut, Madame Augustus Craven, l'auteur du Récit d'une sœur, d'une Eliane, d'un Fleurange, soutenue à grand renfort de serpents et d'orgues par la presse apostolique tout entière. Jamais, non jamais, les Esseintes n'avaient imaginé qu'on pût écrire de pareilles insignifiances. Ces livres étaient au point de vue de la conception d'une telle nigauderie, et ils étaient écrits dans une langue si nauséeuse qu'ils en devenaient presque personnels, presque rares. Du reste, ce n'était point parmi les femmes que des Esseintes, qui avaient l'âme peu fraîche et qui étaient peu sentimentales de sa nature, pouvaient rencontrer un retrait littéraire adapté suivant ses goûts. Il s'ingénia pourtant, et avec une attention qu'aucune impatience ne put réduire, à savourer l'œuvre de la fille de génie, de la vierge au bas bleu du groupe. Ses efforts échouèrent, il ne mordit point à ce journal et à ses lettres, où Eugénie de Guérin célèbre sans discrétion le prodigieux talent d'un frère qui rimait avec une telle ingénuité, avec une telle grâce, qu'il fallait à coup sûr remonter aux œuvres de M. de Jouy et de M. Écouchard Lebrun, afin d'en trouver et d'aussi hardi et d'aussi neuf. Il était inutilement aussi tenté de comprendre les délices de ces ouvrages où l'on découvre des récits tels que ceux-ci. J'ai suspendu ce matin à côté du lit de papa une croix qu'une petite fille lui donna hier. Nous sommes invités, Mimi et moi, à assister demain chez M. Roquier à la bénédiction d'une cloche. Cette course ne me déplaît pas. Où l'on relève des événements de cette importance. Je viens de suspendre à mon cou une médaille de la Sainte Vierge que Louise m'a envoyée pour préservatif du choléra. De la poésie de ce genre. Oh, le beau rayon de lune qui vient de tomber sur l'évangile que je lisais. Enfin, des observations aussi pénétrantes et aussi fines que celles-ci. Quand je vois passer devant une croix un homme qui se signe au haut de son chapeau, je me dis, voilà un chrétien qui passe. Et cela continuait de la sorte, sans arrêt, sans trêve, jusqu'à ce que Maurice de Guérin mourut, et que sa sœur le pleura en de nouvelles pages, écrite dans une prose aqueuse, que parsemaient çà et là des bouts de poèmes dont l'humiliante indigence finissait par apitoyer des esseintes. Ah, ce n'était pas pour dire, mais le parti catholique était bien peu difficile dans le choix de ses protégés et bien peu artiste. Ces lymphes qu'il avait enchoyées et pour lesquelles il avait épuisé l'obéissance de ses feuilles écrivaient, toutes comme des pensionnaires de couvent, dans une langue blanche, dans un de ces flux de la phrase qu'aucun astringent n'arrête. Aussi des esseintes se détournaient-ils de cette littérature avec horreur. Mais ce n'étaient pas non plus les maîtres modernes du sacerdoce qui lui offraient des compensations suffisantes pour remédier à ses déboires. Ceux-là étaient des prédicateurs ou des polémistes impeccables et corrects, mais la langue chrétienne avait fini dans leurs discours et dans leurs livres par devenir impersonnelle, par se figer dans une rhétorique au mouvement et au repos prévu, dans une série de périodes construites d'après un modèle unique. Et en effet, tous les ecclésiastiques écrivaient d'eux-mêmes, avec un peu plus ou un peu moins d'abandon ou d'emphase. Et la différence était presque nulle entre les grisailles tracées par nos seigneurs Dupanloup ou Landriot, la Bouillerie ou Gaume, Pardon Guéranger ou le Père Ratisbonne, par Monseigneur Frépel ou Monseigneur Perrault, par les révérends Pères Ravignon ou Gratry, par le jésuite Olivain, le Carme d'Ozité, le dominicain Didon, ou par l'ancien prieur de Saint-Maximin, le révérend Chorcane. Souvent des esseintes y avaient songé. Il fallait un talent bien authentique, une originalité bien profonde, une conviction bien ancrée, pour dégeler cette langue si froide, pour animer ce style public qui ne pouvait soutenir aucune pensée qui fût imprévue, aucune thèse qui fût brave. Cependant, quelques écrivains existaient, dont l'ardente éloquence fondait et tordait cette langue, l'accordèrent surtout, l'un des seuls écrivains qu'ait depuis des années produit l'Église. Enfermé de même que tous ses confrères dans le cercle étroit des spéculations orthodoxes, obligé ainsi qu'eux de piétiner sur place et de ne toucher qu'aux idées émises et consacrées par les pères de l'Église et développées par les maîtres de la chaire, il parvenait à donner le change, à les rajeunir, presque à les modifier, par une forme plus personnelle et plus vive, çà et là, dans ses conférences de Notre-Dame, des trouvailles d'expression, des audaces de mots, des accents d'amour, des bondissements, des cris d'allégresse, des effusions perdues, qui faisaient fumer le style séculaire sous sa plume. Puis, en sus de l'orateur de talent, qu'était cet habile et doux moine, dont les adresses et dont les efforts s'étaient épuisés dans l'impossible tâche de concilier les doctrines libérales d'une société avec les dogmes autoritaires de l'Église, il y avait en lui un tempérament de fervente dilection, de diplomatique tendresse. Alors, dans les lettres qu'il écrivait à des jeunes gens, passaient des caresses de père exhortant ses fils, de souriantes réprimandes, de bienveillants conseils, d'indulgents pardons. D'aucunes étaient charmantes, où il avouait toute sa gourmandise d'affection, et d'autres étaient presque imposantes, lorsqu'il soutenait le courage et dissipait les doutes par les inébranlables certitudes de sa foi. En somme, ce sentiment de paternité qui prenait sous sa plume quelque chose de délicat et de féminin imprimait à sa prose un accent unique parmi toute la littérature cléricale. Après lui, bien rares se faisaient les ecclésiastiques et les moines qui eussent une individualité quelconque. Tout au plus quelques pages de son élève, l'abbé Pérève, pouvait-elle supporter une lecture. Il avait laissé de touchantes biographies de son maître, écrit quelques aimables lettres, composé des articles, dans la langue sonore des discours, prononcé des panégyriques où le ton déclamatoire dominait trop. Certes, l'abbé Pérève n'avait ni les émotions ni les flammes de la cordère. Il était trop prêtre et trop peu homme. Ça et là, pourtant, dans sa rhétorique de sermon, éclataient des rapprochements curieux, des phrases larges et solides, des élévations presque augustes. Mais il fallait arriver aux écrivains qui n'avaient point subi l'ordination, aux écrivains séculiers, attachés aux intérêts du catholicisme et dévoués à sa cause, pour retrouver des prosateurs qui valussent qu'on s'arrêtât. Le style épiscopal, si banalement manié par les prélats, s'était retrempé et avait en quelque sorte reconquis une mâle vigueur avec le comte de Falloux. Sous son apparence modérée, cet académicien exsudait du fiel. Ses discours prononcés en 1848 au Parlement étaient diffus et ternes, mais ses articles, insérés dans le correspondant et réunis depuis en livres, étaient mordants et âpres, sous la politesse exagérée de leur forme. Conçus comme des harangues, ils contenaient une certaine verve amère et surprenaient par l'intolérance de leurs convictions. Polémiste dangereux à cause de ses embuscades, logicien retors, marchant de côté, frappant à l'improviste, le comte de Falloux avait aussi écrit de pénétrantes pages sur la mort de Madame Swetchin, dont il avait recueilli des opuscules et qu'il révérait à l'égal d'une sainte. Mais où le tempérament de l'écrivain s'accusait vraiment, c'était dans deux brochures parues l'une en 1846 et l'autre en 1880, cette dernière intitulée « L'unité nationale ». Animé d'une rage froide, l'implacable légitimiste combattait cette fois, contrairement à ses habitudes, en face, et jetait aux incrédules, en guise de péroraison, ses fulminantes invectives. « Et vous, utopistes systématiques, qui faites abstraction de la nature humaine, fauteurs d'athéisme nourris de chimères et de haine, émancipateurs de la femme, destructeurs de la famille, généalogistes de la race simienne, vous, dont le nom était naguère une injure, soyez contents, vous aurez été les prophètes et vos disciples seront les pontifes d'un abominable avenir. » L'autre brochure portait ce titre, le Parti catholique, et elle était dirigée contre le despotisme de l'univers et contre Veuillot, dont elle se refusait à prononcer le nom. Ici, les attaques sinueuses recommençaient, le venin filtrait sous chacune de ces lignes, où le gentilhomme, couvert de bleu, répondait par de méprisants sarcasmes aux coups de savate du lutteur. À eux deux, ils représentaient bien les deux parties de l'Église, où les dissidences se résolvent en d'intraitables haines. De Falloux, plus hautain et plus côteleux, appartenait à cette secte libérale dans laquelle étaient déjà réunis et de Montalembert, et Cochin, et Lacordaire, et de Breuil. Il appartenait tout entier aux idées du correspondant, une revue qui s'efforçait de couvrir d'un vernis de tolérance les théories impérieuses de l'Église. Veuillot, plus débraillé, plus franc, rejetait ses masques, attestait sans hésiter la tyrannie des volontés ultramontaines, avouait et réclamait tout haut l'impitoyable joug de ses dogmes. Celui-là s'était fabriqué pour la lutte une langue particulière où il entrait du La Bruyère et du faubourien du Gros Caillou. Ce style mi-solennel, mi-canaille, brandi par cette personnalité brutale, prenait un poids redoutable de casse-tête. Singulièrement entêté et brave, il avait assommé avec ce terrible outil et les libres penseurs et les évêques, tapant à tour de bras, frappant comme un bœuf sur ses ennemis à quelque partie qu'ils appartinssent. Tenu en défiance par l'Église, qui n'admettait ni ce style de contrebande, ni ces poses de barrière, Ce religieux arsouille s'était quand même imposé par son grand talent, ameutant après lui toute la presse qui l'étrillait jusqu'au sang dans ses odeurs de Paris, tenant tête à tous les assauts, se débarrassant à coups de souliers de tous les bas plumitifs qui s'essayaient à lui sauter aux jambes. Malheureusement, ce talent incontesté n'existait que dans le pugilat. Au calme, Veuillot n'était plus qu'un écrivain médiocre. Ses poésies et ses romans inspiraient la pitié. Sa langue à la poivrade s'éventait à ne pas cogner. L'arpin catholique se changeait au repos en un cacochim qui toussait de banales litanies et balbutiait d'enfantins cantiques. Plus guindé, plus contraint, plus grave, était l'apologiste chéri de l'Église, l'inquisiteur de la langue chrétienne, Hosannam. Encore qu'il fût difficile à surprendre, Delessin ne se lassait pas que d'être étonné par l'aplomb de cet écrivain qui parlait des desseins impénétrables de Dieu alors qu'il eût fallu administrer l'épreuve des invraisemblables assertions qu'il avançait. Avec le plus beau sang-froid, celui-là déformait les événements, contredisait plus impudemment encore que les panégyristes des autres partis les actes reconnus de l'histoire, certifiait que l'Église n'avait jamais caché l'estime qu'elle faisait de la science, qualifiait les hérésies de miasmes impurs, traitait le bouddhisme et les autres religions avec un tel mépris qu'il s'excusait de souiller la prose catholique par l'attaque même de leur doctrine. Par instant, la passion religieuse insufflait une certaine ardeur à sa langue oratoire, sous les glaces de laquelle bouillonnait un courant de violence sourde. Dans ses nombreux écrits sur le Dante, sur saint François, sur l'auteur du Stabat, sur les poètes franciscains, sur le socialisme, sur le droit commercial, surtout, cet homme plaidait la défense du Vatican qu'il estimait indéfectible, appréciait indifféremment toutes les causes, suivant qu'elles se rapprochaient ou s'écartaient plus ou moins de la sienne. Cette manière d'envisager les questions à un seul point de vue était celle aussi de ce piètre écrivassier que d'aucuns lui opposaient comme un rival, nettement. Celui-là était moins cinglé et il affectait des prétentions moins altières et plus mondaines. À diverses reprises, il était sorti du cloître littéraire où s'emprisonnait Hosannam et il avait parcouru les œuvres profanes pour les juger. Il était entré là-dedans à tâtons, ainsi qu'un enfant dans une cave, ne voyant autour de lui que des ténèbres, ne percevant au milieu de ce noir que la lueur du cierge qu'il éclairait en avant à quelques pas. Dans cette ignorance des lieux, dans cette ombre, il avait achoppé à tout bout de chemin, parlant de Murgère qui avait le souci du style ciselé et soigneusement fini, d'Hugo qui recherchait l'infect et l'immonde et auquel il osait comparer M. de Laprade, de Delacroix qui dédaignait la règle, de Paul de la Roche et du poète Reboul qui l'exaltait parce qu'il lui semblait posséder la foi. Des Essaintes ne pouvaient s'empêcher de hausser les épaules devant ces malheureuses opinions que recouvrait une prose assistée dont l'étoffe déjà portée s'accrochait et se déchirait à chaque coin de phrase. D'un autre côté, les ouvrages de Poujoulat et de Genoude, de Montalembert, de Nicolas et de Carnet ne lui inspiraient pas une sollicitude beaucoup plus vive. Son inclination pour l'histoire traitée avec un soin érudit et dans une langue honorable par le duc de Broglie, et son penchant pour les questions sociales et religieuses abordées par Henri Cochin, qui s'était pourtant révélé dans une lettre où il racontait une émouvante prise de voile au Sacré-Cœur, ne se prononçait guère. Depuis longtemps, il n'avait plus touché à ses livres, et l'époque était déjà lointaine où il avait jeté au vieux papier les puériles élucubrations du sépulcral Pontmartin et du minable Féval, et où il avait confié aux domestiques, pour un commun usage, les historiettes des Aubineau et des Lasserre, ces bas hagiographes des miracles opérés par M. Dupont de Tours et par la Vierge. En somme, des Hyacinthe n'extrayait même point de cette littérature une passagère distraction à ses ennuis, aussi repoussait-il dans les angles obscurs de sa bibliothèque ces amas de livres qu'il avait jadis étudiés lorsqu'il était sorti de chez les pères. « Bon, j'aurais bien dû abandonner cela à Paris, » se disait-il en dénichant derrière les autres des livres qui lui étaient plus particulièrement insupportables, ceux de l'abbé Lamennais et ceux de cet imperméable sectaire, si magistralement, si pompeusement ennuyeux et vide, le comte Joseph de Maistre. Un seul volume restait installé sur un rayon à portée de sa main, L'Homme, d'Ernest Hello. Ah, celui-là était l'antithèse absolue de ses confrères en religion. Presque isolé dans le groupe pieux que ses allures effarouchaient, Ernest Hello avait fini par quitter ce chemin de grande communication qui mène de la terre au ciel. Sans doute écœuré par la banalité de cette voie et par la cohue de ces pèlerins de lettres qui suivaient à la queue leu depuis des siècles la même chaussée, marchant dans les pas les uns des autres, s'arrêtant aux mêmes endroits pour échanger les mêmes lieux communs sur la religion, sur les pères de l'Église, sur leurs mêmes croyants, sur leurs mêmes maîtres, il était parti par les sentiers de traverse, avait débouché dans la morne clairière de Pascal, où il s'était longuement arrêté pour reprendre haleine, puis il avait continué sa route et était entré plus avant que le janséniste, qu'il huait d'ailleurs, dans les régions de la pensée humaine. Tortillé et précieux, doctoral et complexe, Hello, par les pénétrantes arguties de son analyse, rappelait à des Hyacinthe les études fouillées et pointues de quelques-uns des psychologues incrédules du précédent et du présent siècle. Il y avait en lui une sorte de Duranti catholique, mais plus dogmatique et plus aigu, un manieur expérimenté de loupe, un ingénieur savant de l'âme, un habile horloger de la cervelle, se plaisant à examiner le mécanisme d'une passion et à l'expliquer par le menu des rouages. Dans cet esprit bizarrement conformé, il existait des relations de pensée, des rapprochements et des oppositions imprévues. Puis, tout un curieux procédé qui faisait de l'étymologie des mots un tremplin aux idées dont l'association devenait parfois ténue, mais il demeurait presque constamment ingénieux et vif. Il avait ainsi, et malgré le mauvais équilibre de ses constructions, démonté avec une singulière perspicacité l'avare, l'homme médiocre, analysé le goût du monde, la passion du malheur, révélé les intéressantes comparaisons qui peuvent s'établir entre les opérations de la photographie et celles du souvenir. Mais cette adresse à manier cet outil perfectionné de l'analyse qu'il avait dérobé aux ennemis de l'Église ne représentait que l'un des côtés du tempérament de cet homme. Un autre être existait encore en lui. Cet esprit se dédoublait, et après l'endroit apparaissait l'envers de l'écrivain, un fanatique religieux et un prophète biblique. De même que Hugo, dont il rappelait çà et là les luxations et d'idées et de phrases, Ernest Hello s'était plu à jouer les petits Saint-Jean à Patmos. Il pontifiait et vaticinait du haut d'un rocher fabriqué dans les bondieuseries de la rue Saint-Sulpice, haranguant le lecteur avec une langue apocalyptique que salait par place l'amertume d'un Isaïe. Il affectait alors des prétentions démesurées à la profondeur. Quelques complaisants criaient au génie, feignaient de le considérer comme le grand homme, comme le puits de science du siècle. Un puits, peut-être, mais au fond duquel on ne voyait bien souvent goutte. Dans son volume « Paroles de Dieu », où il paraphrasait les Écritures et s'efforçait de compliquer leur sens à peu près clair, dans son autre livre « L'homme », dans sa brochure « Le jour du Seigneur », rédigée dans un style biblique entrecoupé et obscur, il apparaissait ainsi qu'un apôtre vindicatif, orgueilleux, rongé de bile, et il se révélait également tel qu'un diacre atteint de l'épilepsie mystique, tel qu'un demestre qui aurait du talent, tel qu'un sectaire hargneux et féroce. Seulement, pensait des Esseintes, ce dévergondage maladif bouchait souvent les échappées inventives du casuiste. Avec plus d'intolérance encore qu'aux âmes, il niait résolument tout ce qui n'appartenait pas à son clan, proclamait les axiomes les plus stupéfiants, soutenait avec une déconcertante autorité que la géologie s'était retournée vers Moïse, que l'histoire naturelle, que la chimie, que toute la science contemporaine vérifiait l'exactitude scientifique de la Bible. À chaque page, il était question de l'unique vérité, du savoir surhumain de l'Église, le tout semé d'aphorismes plus que périlleux et d'imprécations furibondes vomies à plein pot sur l'art du dernier siècle. À cet étrange alliage s'ajoutait l'amour des douceurs béates, des traductions du livre des visions d'Angèle de Foligno, un livre d'une sottise fluide sans égale, et des œuvres choisies de Jean Rusbrock, l'admirable, un mystique du XIIIe siècle, dont la prose offrait un incompréhensible et attirant amalgame d'exaltations ténébreuses, d'effusions caressantes, de transports âpres. Toute la pose de l'outrecuidant pontife qu'était Tello avait jailli d'une abracadabrante préface écrite à propos de ce livre. Ainsi qu'il le faisait remarquer, les choses extraordinaires ne peuvent que se balbutier. Et il balbutiait en effet, déclarant que la ténèbre sacrée Urukstok étant ses ailes d'aigle, et son océan, sa proie, sa gloire, et que les quatre horizons seraient pour lui un vêtement trop étroit. Quoi qu'il en fût, des Esseintes se sentaient attirés par cet esprit mal équilibré, mais subtil. La fusion n'avait pu s'accomplir entre l'adroit psychologue et le pieux cuistre, et ces chaos, ces incohérences même, constituaient la personnalité de cet homme. Avec lui, s'était recruté le petit groupe des écrivains qui travaillaient sur le front de bandière du clan clérical. Ils n'appartenaient pas au gros de l'armée, étaient à proprement parler les batteurs d'estrade, d'une religion qui se défiait des gens de talent, tels que Veuillot, tels que Hello, parce qu'il ne lui semblait encore ni assez asservi, ni assez plat. Au fond, il lui fallait des soldats qui ne résonnassent point, des troupes de ces combattants aveugles, de ces médiocres dont Hello parlait avec la rage d'un homme qui a subi leur joug. Aussi le catholicisme s'était-il empressé d'écarter de ses feuilles l'un de ses partisans, un pamphlétaire enragé, qui écrivait une langue tout à la fois exaspérée et précieuse, coquebine et farouche, Léon Blois. Et avait-il jeté à la porte de ses librairies, comme un pestiféré et comme un malpropre, un autre écrivain, qui s'était pourtant égosillé à célébrer ses louanges, Barbet de Revilly. Il est vrai que celui-là était par trop compromettant et par trop peu docile. Les autres courbaient en somme la tête sous les semonces et rentraient dans leur rang. Lui était l'enfant terrible et non reconnu du parti. Il courait littérairement la fille qu'il amenait toute dépoitraillée dans le sanctuaire. Il fallait même cet immense mépris dont le catholicisme couvre le talent pour qu'une excommunication en bonne et due forme n'eût point mis hors la loi cet étrange serviteur qui, sous prétexte d'honorer ses maîtres, cassait les vitres de la chapelle, jonglait avec les saints ciboires, exécutait des danses de caractère autour du tabernacle. Deux ouvrages de Barbet de Revilly attisaient spécialement des esseintes, le prêtre marié et les diaboliques. D'autres, tels que l'ensorcelé, le chevalier des touches, une vieille maîtresse, étaient certainement plus pondérés et plus complets, mais ils laissaient plus froid des esseintes qui ne s'intéressaient réellement qu'aux œuvres mal portantes, minées et irritées par la fièvre. Avec ses volumes presque saints, Barbet de Revilly avait constamment louvoyé entre ces deux fossés de la religion catholique qui arrivent à se joindre, le mysticisme et le sadisme. Dans ces deux livres que feuilletaient des esseintes, Barbet avait perdu toute prudence, avait lâché bride à sa monture, était parti, ventre à terre, sur les routes qu'il avait parcourues jusqu'à leurs points les plus extrêmes. Toute la mystérieuse horreur du Moyen-Âge planait au-dessus de cet invraisemblable livre, Le prêtre marié. La magie se mêlait à la religion, le grimoire à la prière, et, plus impitoyable, plus sauvage que le diable, le dieu du péché originel torturait sans relâche l'innocente Calixte, sa réprouvée, la désignant par une croix rouge au front, comme jadis il fit marquer par l'un de ses anges les maisons des infidèles qu'il voulait tuer. Conçu par un moine à jeun, pris de délire, ces scènes se déroulaient dans le style capricant d'un agité. Malheureusement, parmi ces créatures détraquées, ainsi que des coppélias galvanisées d'Hoffmann, d'aucune, telle que le Néel de Néou, semblait avoir été imaginée dans ces moments d'affaissement qui succèdent aux crises, et elle détonnait dans cet ensemble de folies, ombres où elles apportaient l'involontaire comique que dégage la vue d'un petit seigneur de zinc qui joue du corps en bottes molles sur le socle d'une pendule. Après ces divagations mystiques, l'écrivain avait eu une période d'accalmie, puis une terrible rechute s'était produite. Cette croyance que l'homme est un âne de Buridan, un être tiraillé entre deux puissances d'égale force, qui demeure à tour de rôle victorieux de son âme et vaincu, cette conviction que la vie humaine n'est plus qu'un incertain combat livré entre l'enfer et le ciel, cette foi en deux entités contraires, Satan et le Christ, devait fatalement engendrer ces discordes intérieurs où l'âme, exaltée par une incessante lutte, échauffée en quelque sorte par les promesses et les menaces, finit par s'abandonner et se prostitue à celui des deux parties dont la poursuite a été la plus tenace. Dans Le prêtre marié, les louanges du Christ dont les tentations avaient réussi étaient chantées par Barbet de Revilly. Et dans les diaboliques, l'auteur avait cédé au diable qu'il célébrait, et alors apparaissait le sadisme, ce bâtard du catholicisme, que cette religion a sous toutes ses formes poursuivi de ses exorcismes et de ses bûchers pendant des siècles. Cet état si curieux et si mal défini ne peut en effet prendre naissance dans l'âme d'un mécréant. Il ne consiste point seulement à se vautrer parmi les excès de la chair, aiguisés par de sanglants sévices, car il ne serait plus alors qu'un écart des sens génésiques, qu'un cas de satyriasis arrivé à son point de maturité suprême. Il consiste avant tout dans une pratique sacrilège, dans une rébellion morale, dans une débauche spirituelle, dans une aberration toute idéale, toute chrétienne. Il réside aussi dans une joie tempérée par la crainte, dans une joie analogue à cette satisfaction mauvaise des enfants qui désobéissent et jouent avec des matières défendues, par ce seul motif que leurs parents leur en ont expressément interdit l'approche. En effet, s'il ne comportait point d'un sacrilège, le sadisme n'aurait pas de raison d'être. D'autre part, le sacrilège qui découle de l'existence même d'une religion ne peut être intentionnellement et pertinemment accompli que par un croyant, car l'homme n'éprouverait aucune allégresse à profaner une foi qui lui serait ou indifférente ou inconnue. La force du sadisme, l'attrait qu'il présente, gît donc tout entier dans la jouissance prohibée de transférer à Satan les hommages et les prières qu'on doit à Dieu. Il gît donc dans l'inobservance des préceptes catholiques qu'on suit même à rebours en commettant, afin de bafouer plus gravement le Christ, les péchés qu'il a le plus expressément maudits, la pollution du culte et l'orgie charnelle. Au fond, ce cas auquel le marquis de Sade a légué son nom était aussi vieux que l'Église. Il avait sévi dans le XVIIIe siècle, ramenant, pour ne pas remonter plus haut, par un simple phénomène d'atavisme, les pratiques impies du sabbat au Moyen Âge. À avoir seulement consulté le Malleus Maleficorum, ce terrible code de Jacob Sprenger, qui permit à l'Église d'exterminer par les flammes des milliers de nécromants et de sorciers, des esseintes reconnaissaient dans le sabbat toutes les pratiques obscènes et tous les blasphèmes du sadisme. En sus des scènes immondes chères aux malins, des nuits successivement consacrées aux accouplements licites et indues des nuits ensanglantées par les bestialités du rut, il retrouvait la parodie des processions, les insultes et les menaces permanentes à Dieu, le dévouement à son rival alors qu'on célébrait en maudissant le pain et le vin à la messe noire sur le dos d'une femme à quatre pattes dont la croupe nue et constamment souillée servait d'autel et que les assistants communiaient par dérision avec une hostie noire dans la patte de laquelle une image de bouc était empreinte. Ce dégorgement d'impures railleries, de salissants opprobres, était manifeste chez le marquis de Sade, qui épissait ses redoutables voluptés de sacrilèges outrages. Il hurlait au ciel, invoquait Lucifer, traitait Dieu de méprisable, de scélérat, d'imbécile, crachait sur la communion, s'essayait à contaminer par de basses ordures une divinité qu'il espérait vouloir bien le damner, tout en déclarant, pour la braver encore, qu'elle n'existait pas. Cet état psychique, Barbet de Révilly le côtoyait. S'il n'allait pas aussi loin que de Sade, en proférant d'atroces malédictions contre le Sauveur, si, plus prudent ou plus craintif, il prétendait toujours honorer l'Église, il n'en adressait pas moins, comme au Moyen Âge, ses postulations au diable, et il glissait, lui aussi, afin d'affronter Dieu, à l'érotomanie démoniaque, forgeant des monstruosités sensuelles, empruntant même à la philosophie dans le boudoir un certain épisode qu'il assaisonnait de nouveaux condiments lorsqu'il écrivait ce conte, Le dîner d'un athée. Ce livre excessif délectait des esseintes. Aussi avait-il fait tirer en violet d'évêque dans un encadrement de pourpre cardinalis, sur un authentique parchemin que les auditeurs de Roth avaient béni, un exemplaire des diaboliques, imprimé avec ses caractères de civilité, dont les croches biscornues, dont les paraffins queues retroussées et en griffe, affectent une forme satanique. Après certaines pièces de Baudelaire, qui, à l'imitation des chants clamés pendant les nuits du sabbat, célébrait des litanies infernales, ce volume était parmi toutes les œuvres de la littérature apostolique contemporaine le seul qui témoigna de cette situation d'esprit tout à la fois dévote et impie, vers laquelle les revenez-y du catholicisme, stimulés par les accès de la névrose, avaient souvent poussé des esseintes. Avec Barbey de Révilly, prenait fin la série des écrivains religieux. À vrai dire, ce paria appartenait plus, à tous les points de vue, à la littérature séculière qu'à cette autre chez laquelle il revendiquait une place qu'on lui déniait. Sa langue, d'un romantisme échevelé, pleine de locutions torses, de tournures inusitées, de comparaisons outrées, enlevait à coups de fouet ces phrases qui pétaradaient en agitant de bruyantes sonailles tout le long du texte. En somme, de Révilly apparaissait ainsi qu'un étalon parmi ces ombres qui peuplent les écuries d'ultramontaines. Des Esseintes se faisait ses réflexions en relisant ça et là quelques passages de ce livre, et comparant ce style nerveux et varié au style lymphatique et fixé de ses confrères, il songeait aussi à cette évolution de la langue qu'a si justement révélée Darwin. Mêlé aux profanes, élevé au milieu d'écoles romantiques, au courant des œuvres nouvelles, habitué au commerce des publications modernes, Barbey était forcément en possession d'un dialecte qui avait supporté de nombreuses et profondes modifications qui s'étaient renouvelées depuis le grand siècle. Confinés au contraire sur leur territoire, écroués dans d'identiques et d'anciennes lectures, ignorant le mouvement littéraire des siècles et bien décidés au besoin à se crever les yeux pour ne pas le voir, les ecclésiastiques employaient nécessairement une langue immuable, comme cette langue du XVIIIe siècle que les descendants des Français établis au Canada parlent et écrivent couramment encore, sans qu'aucune sélection de tournures ou de mots ait pu se produire dans leur idiome isolé de l'ancienne métropole et enveloppé de tous les côtés par la langue anglaise. Sur ces entrefaites, le son argentin d'une cloche qui tintait un petit angélus annonça à des Esseintes que le déjeuner était prêt. Il laissa là ses livres, s'essuya le front et se dirigea vers la salle à manger, se disant que parmi tous ces volumes qu'il venait de ranger, les œuvres de Barbey de Révilly étaient encore les seules dont les idées et le style présentassent ces faisans d'âge, ces taches morbides, ces épidermes tallés et ce goublet qu'il aimait tant à savourer parmi les écrivains décadents, latins et monastiques des vieux âges.